Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
On va aller rejoindre Benoît Dutrisac. Mario Dumont est en vacances. Bonjour, Benoît.
Salut, Pierre. Est-ce que Mario va être là lundi prochain? Parce que il va être en quarantaine. Là, il est pas parti sur une plage quelconque.
Non, j'ai l'impression qu'il est à Balconville. Je pense qu'il est à Balconville.
Moi aussi, je pense.
Il y a un gros balcon. Mais, peut-être qu'il écoute le hockey, en tout cas. Parce que hier, de toute évidence, le sport a eu beaucoup d'importance à la conférence de presse. François Legault était comme candide, comme un petit garçon, devant Cole Caulfield, qui a changé la donne. Peut-être même va influencer la santé publique, penses-tu?
J'ai trouvé Jean-François sévère dans son commentaire.
Ouais, mais je le comprends, moi.
Non, je l'ai trouvé sévère parce que on peut pas, surtout lui là qui suit les sports, qui connaît ça, qui aime ça. Mm-hmm. Tu sais, même moi, tu sais, Pierre, tu sais, on est un peu pareil là. Tu sais, on aime ça, mais de loin. Mm-hmm. Je me dis, ça fait quelques matchs que je regarde, fait quelques matchs où le Canadien part de l'arrière puis finit par gagner.
Mais
pour notre tête à nous là. Ouais. Après plus de 14-15 mois de pandémie, ça c'est plus que faire du bien là. C'est presque symbolique,
oui.
Tu sais, de partir avec 11 000 morts, avec ce qui s'est passé dans les CHSLD, tu sais, le Québec était pointé par tout le reste du Canada pour dire regardez comment c'est une gang de cabochons qui savent pas gérer une pandémie. Et là, tout à coup, nous, on s'en sort pour l'instant un peu mieux là, ce qu'on voit dans le reste du Canada où il y a des éclosions en Nouvelle-Écosse, en Colombie, en Ontario. Fait que je trouve que c'est lourd de symbole ce qui se passe avec le Canadien. Et s'il finissait par se placer en série, c'est pas une chronique sportive là, mais si.
Parce que c'est le hockey au Québec, c'est quand même sociétal.
C'est notre culture.
Ben oui.
Tu sais, c'est notre culture, c'est notre sport national à nous autres qui nous appartient. Les Molson l'oublient parce qu'ils annoncent pas mal tout en anglais avec leur style de musique en anglais au Centre Bell.
Au Centre Bell, c'est frappant.
Non, mais c'est frappant et ça me rend furieux à chaque fois que j'y vais là. Je sors de là, j'aime ça, je trippe, puis. À chaque fois que je vais au Centre Bell, je sors avec un mâton entre les dents en me disant, voyons, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? C'est des Québécois majoritairement francophones qui viennent au Centre Bell, 80%, puis ils nous passent que de la musique en anglais.
Je pense qu'ils prennent pour acquis, tu sais, que c'est plus un enjeu, protéger le français, là. Les nationalistes sont morts, puis c'est pas grave. Honnêtement, j'ai un peu cette impression-là quand je regarde l'organisation. Evan Co, Bell, Canadien, c'est toute la gang.
Tout à fait. Mm-hmm. Mais tu vois, en plus, on n'a pas de joueurs Québécois, francophones, on a deux, trois, Jonathan Drouin sur la touche, il y a Dano, mais je trouve que les propos, pour revenir à
Jean-François, sujet, pauvre Jean-François.
Les propos de François Legault, c'était, je pense, dans cet esprit-là, tu sais, que de s'identifier aux Canadiens, puis on est capable de revenir de l'arrière, puis de gagner la partie contre la COVID-19, là. On est là-dedans, là, tu sais. Puis moi, je pense qu'une coupe de coups de coude bien placée serait les bienvenus. Il serait temps... Là, tu sais, je sais pas, toi, comment tu décodes ça, là, tu sais, les recommandations, là, du comité...
Canadien national d'immunisation. Écoute, je suis d'accord avec toi, tu me poses cette question-là, parce que franchement, je vais te dire ça bien honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait un effort de guerre particulier que d'avoir reçu l'AstraZeneca.
Ben oui.
J'en étais conscient d'ailleurs. Je savais très bien que les doses qu'on avaient une date de péremption très proche. Fait qu'il fallait passer. Un. Deux.
En passant, on a une date de péremption.
Oui, ben c'est clair. Fait que mais j'étais conscient qu'il y avait une urgence d'administrer ces doses-là parce qu'on allait les perdre. Deuxièmement, parce que c'est ce qu'on avait en bonne quantité. Troisièmement, parce que il fallait se dépêcher de le donner aux gens qui étaient encore en âge de le recevoir. Parce que mettons qu'il ne reste que des 45 ans et moins, ben ils peuvent plus donner l'AstraZeneca ou 40 ans et moins, ils pourront plus le donner. Alors que là, c'est Johnson & Johnson, c'est un peu compliqué. Puis là, la déclaration de Dr. Quach, qui jusqu'ici, hein, faut le reconnaître, là, ça fait partie des gens qui nous ont rassurés, qui nous ont informés depuis des années, des mois, presque un an et demi, là, bientôt. Et vraiment, elle était fantastique. Mais hier, effectivement, quand je l'ai entendu dire ça, j'ai fait comme, hein? Quoi? Tu me dis que je peux choisir mon vaccin, puis qu'à choisir, tu prendrais pas l'AstraZeneca, toi?
En pleine pandémie, là. On peut choisir, tu sais, t'es pas au restaurant à choisir ton vin en fonction du repas que tu viens de commander. Oh, je vais prendre un pinot noir parce que ça va avec les pâtes. Voyons donc, on est en pleine pandémie, ça urge, puis là on apprend que le vaccin d'AstraZeneca est optionnel. Ben chose, on est assez privilégié. Je pense qu'il y a du monde à travers la planète qui lève la main, qui roule sa manche, puis dit on va le prendre nous autres là. Ce qui est étonnant aussi là, c'est quand on lit les études d'épidémiologie sur AstraZeneca, ça a été mené au Royaume-Uni au moment du variant. Puis le Pfizer et Moderna, ils ont pas subi les mêmes études au même endroit au même moment. Fait que j'ai lu ça tantôt, mais je dis est-ce que l'AstraZeneca a mauvaise réputation à cause d'une question de contexte là, de où l'étude a été menée? Puis je lisais aussi que l'AstraZeneca a un risque de thrombose d'un 1 sur 100 000. Johnson & Johnson, 1 sur 250 000. Mais si tu prends la pilule contraceptive, c'est 1 sur 1000. Les femmes qui prennent les pilules contraceptives ont un risque 1 sur 1000 de développer des thromboses. Mais on en prescrit, tu sais, allègrement.
Mais ici, moi j'ai l'impression, Benoît, que la différence est dans le fait que tu prends un vaccin puis t'es administré par la santé publique, puis on sait qu'il y a une statistique de 1 sur 100,000, puis évidemment ça varie, mais c'est une moyenne. Puis donc tu fais un geste précis, tu prends et on te dit t'as une chance sur 100,000, c'est très peu, on s'entend là-dessus. Mais quand tu avales le médicament ou quand on t'injecte le vaccin, c'est maintenant que ton sort est jeté. Alors que quand tu prends la pilule contraceptive, c'est quelque chose, tu le prends pour d'autres raisons, tu le prends pas pour te protéger, tu prends pour d'autres raisons.
Mais tu prends plus de risques à prendre la pilule contraceptive qu'à recevoir l'AstraZeneca. C'est là où je veux en venir, tu sais. Puis aussi, une autre donnée, c'est que si tu es hospitalisé, là, tu pognes la COVID, tu te ramasses à l'hôpital, les risques de thrombose passent de 10 à 40 %. Fait que faudrait peut-être mettre les choses en contexte.
Enjeu de communication ici, très clairement. Ça, c'est bien dit. Ben, peux-tu me répéter ça? Parce que je trouve que c'est vraiment une bonne analogie que tu viens de faire. Si t'es hospitalisé...
qui est facilement disponible. Je pense que c'est sur Radio-Canada. Si tu es hospitalisé, ton risque de thrombose est de 10 à 40 %.
OK. Donc, si tu prends le vaccin AstraZeneca qui t'évite d'être hospitalisé, le calcul est simple.
Je
suis pas fort en mathématiques, mais t'as raison.
C'est ça, je trouve. Je suis pas sûr que ça serve, tu sais, la santé publique à ce moment-ci où on est en train de s'en sortir, où on vise. Tu sais, là, M. Legault, hier, parlait de déconfinement puis d'assouplissement pour cet été. Peut-être aller voir le Canadien, peut-être tu parlais d'aller au théâtre avec des bancs libres autour. Moi, c'est mon rêve, là, d'avoir deux bancs partout autour de soi.
Oui, c'est vrai, quoi. Pour ça, on est tranquille. Tu peux parler à tableau. Personne t'entend.
Il y a peut-être de l'écho, tu sais, au nombre que tu es. Mais tu sais, les restaurants, là, faut pas les oublier, là, qui crèvent de faim. Ce message-là va à l'encontre du déconfinement puis de retrouver une espèce de vie normale. Si vous prenez pas la pilule contraceptive, je pense qu'il y a des liens de comorbidité, en tout cas de liens à provoquer des thromboses si tu prends l'AstraZeneca. Mais là au Québec, on a le luxe de choisir, fait que on va choisir même, tu sais, le Johnson & Johnson, même là, tu sais, c'est 1 pour 100,000 l'AstraZeneca. Johnson & Johnson, une dose, c'est 1 sur 250,000. Puis on met ça, tu sais, c'est George Orwell qui écrivait dans La Ferme qu'il y a des animaux qui sont plus égaux que d'autres. Tu sais, là, tu dis...
Plus égaux que d'autres, j'adore.
C'est quoi ce vaccin-là? Là? C'est quoi l'égalité entre les vaccins? C'est quoi les risques? Le Moderna puis le Pfizer? Tu sais, puis on dit partout que l'évolution, la médecine évolue, la science évolue. Qu'est-ce qui nous dit que dans 2-3 semaines, on va pas apprendre que le Pfizer nous fait pousser...
une antenne dans la tête pour attraper la 5G, puis... rencontrer Melinda Gates dans ses rêves.
Oh, ça serait le fun.
Oui, c'est, surtout que son compte t'épargne. Mais très clairement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, regarde, on nage dans l'inconnu, on gère au mieux. Puis honnêtement, je pense que le gouvernement a bien mené sa campagne de vaccination en disant, écoutez, là, on a de l'AstraZeneca. Ceux que ça n'inquiète pas, là, venez donc, c'est sans rendez-vous. Oui. Puis ils en ont passé une beurrée, comme toi et moi. Ouais. Effectivement, puis c'était la bonne chose à faire.
Honnêtement, Pierre, depuis que tu as été vacciné, oui. En tout cas, moi, là, il y a comme un apaisement qui est arrivé. Tu sais, il y a vraiment, là, il y a comme un moment où j'ai fait, OK, je suis moins à risque. Là. Hier, j'ai été obligé d'aller à l'hôpital là, pour des raisons familiales. Mm-hmm. Puis tu rentres là, puis tu dis, OK, je suis moins...
Ça fait du bien, hein?
Ouais, je me sens un peu rassuré quand même.
Mais tu sais, c'est certain qu'il y a comme une espèce de stress communautaire, un stress partagé par tout le monde relativement à ça. On s'y est habitué, un peu comme on dit qu'on peut faire cuire une grenouille en réchauffant doucement l'eau, sinon elle va sortir si on la met dans l'eau bouillante. Mm-hmm. Ben on s'est habitué à vivre avec une espèce de conscience collective. On n'avait pas ça avant. Je veux dire, il y a 2-3 ans, là, tu disais une personne qui était pas prudente avec une chaîne. Ça, attention, tu vas te couper un doigt, tu vas crader l'hôpital, tu vas créer un embouteillage de plus. Aujourd'hui, on songe à ça. Alors, ça saute bien. En tout cas, ça a développé une espèce de conscience au-delà de notre petite vie à nous. Mais ça a aussi développé une espèce d'inquiétude, d'angoisse. Moi, j'ai l'impression que quand ça va être fini, là, tout le monde va avoir une espèce de petit soupir, va se mettre à pleurer un peu. Comment le stress est fini? Variation, évidemment, à diffusion différente pour chacun. Mais il y a comme un stress collectif que si on peut finir par s'en sortir, évidemment, comme l'a bien dit les gens de l'Organisation de la Santé mondiale, on n'est pas sorti du bois tant que tout le monde n'est pas sorti du bois parce que ça peut revenir par un pays où tout le monde est malade parce qu'ils n'ont pas de vaccin.
Tu trouves pas ça bizarre, Pierre, que... T'sais, alors qu'on parle du choix du vaccin, là, AstraZeneca optionnel là, au Québec, on a arrêté de parler des variants qui nous a fait capoter depuis 10 jours. Là, le Brésilien, le Sud-Africain, l'Indien, là, c'est pas des séances d'épilation, là, c'est des variants. Là, tu sais, on était fou raide avec ça, puis on se demandait est-ce que à cause des variants, les vaccins vont être aussi efficaces. Et là, tout à coup, on est rendu à choisir le vaccin.
Ouais.
Et si l'AstraZeneca était plus résistant aux variants?
Peut-être.
Est-ce qu'on le sait?
Effectivement, t'as raison. Mais moi, pour moi, la première chose, c'est que tout d'un coup, les sujets dont nous parlons, dont les médias parlent, c'est de la haute science. Avant, ça, tu voyais juste ça dans The Lancet puis dans le Medical Journal. Tout d'un coup, dans le TV Hebdo, on parle de tel vaccin qui est meilleur que l'autre. T'sais, on est vraiment, tout le monde s'en va là-dedans. Puis c'est normal, c'est ce qui nous préoccupe le plus.
Il y en a 30 000 qui n'ont pas fait ces lectures-là, mais ça, c'est une autre histoire. T'as-tu lu l'article sur les doses d'espoir pour les gens atteints de la COVID longue?
Oui, c'est intéressant.
C'est vraiment intéressant. Puis écoute, sans niaiser, ma mère m'a dit ça. Ma mère, qui a 90 ans, quand elle a été vaccinée, ben elle m'a dit, je sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin-là, mais ça m'a fait du bien.
Et voyons donc.
Puis là, tu lis les commentaires des gens qui ont eu la COVID, qui ont reçu un vaccin et qui disent, tu sais, un ambulancier là, qui dit 10 jours après avoir reçu une première dose du vaccin Moderna, j'ai senti une bonne amélioration. Puis c'est confirmé par des gens autour d'eux ou des gens qui les soignent et qui les traitent. Mmh. Là, tu dis, c'est la puce électromagnétique qu'on nous a injectée, c'est ça. Puis là, tout à coup, tout le monde est en ligne, puis on devient Wi-Fi 5G, là, puis on devient des mutants.
Tout d'un coup, je pogne TVA Sport, même juste tout seul dans mon char. mais étrangement, vraiment, ça se peut qu'il y ait un effet là-dessus, puis c'est clair que pour tout le monde, on combat un sentiment de stress, et juste le fait d'être vacciné, ça peut déjà alléger beaucoup le stress et donc redonner une forme d'allégresse puis d'énergie. Puis la vérité, c'est que on a ce sentiment-là général quand on voit le taux de vaccination qui augmente. Le faire, on sent une espèce d'allégresse depuis 10 jours. Là, je me souviens, c'était lundi, il y a 10 jours à peu près, on évoquait que, oups, on avait comme un air d'aller sur la vaccination.
C'est dangereux.
Oui, t'as raison, faut être prudent.
Oui, on sait pas. Mais... Mais tu sais, hier, je suis revenu sur la manifestation, puis j'ai parlé au docteur Drouin, puis tu sais, bon, qui voulait pas se prononcer là sur tout ça, mais il reste que, tu sais, tu parles d'allégresse, mais en même temps, cette manifestation-là, samedi, ne faut pas la sous-estimer, parce que les gens ont regardé ça, tout le monde a regardé ça en se disant, hey,
ben voyons,
je peux pas recevoir ma famille pour un brunch dans le cours, tu sais, un dimanche après-midi.
La fête des masses, tu sais.
Genre, puis là, cette gang-là se rassemble à 30 000, puis il y a eu 28 constats d'infraction.
Ah, c'est très, très, très insultant. Moi, personnellement, je comprends pas. Puis, évidemment, dans cette histoire, il y a toute cette question du travail qui a été fait par Mylène Drouin, qui, dans l'ensemble, je pense qu'elle a fait partie beaucoup de la solution. Hein, la situation sanitaire à Montréal aurait pu empirer.
C'est pas son rôle non plus de critiquer la politique ou les événements sociaux. Là. T'sais, elle est dans la science et la vaccination plus sacrant. Fait que, t'sais, elle reste dans son discours, elle reste positive, puis je pense que c'est ce qu'elle doit faire. T'sais, les chialeux, c'est notre job, ça.
Oui, les gars. Puis d'ailleurs, honnêtement, on pourrait chialer longtemps quand on voit que Ottawa, qui décide de s'excuser aux Italo-Canadiens de la Deuxième Guerre mondiale.
Écoute, il y a un article dans le Globe and Mail, là, on va finir avec ça, Pierre, là, mais vraiment, c'est intéressant, parce que là, tout à coup, il y a le ministre Angelo Iacono,
de Laval,
qui est un libéral que tu connais sûrement, là, qui a demandé à ce qu'on présente des excuses à tous les Italo-Canadiens pour ceux qui ont été emprisonnés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, on parle, puis il y a un chercheur, un historien qui a sorti des chiffres, puis une mise en contexte, parce que les Canadiens de descendance japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu 12 000 qui ont été emprisonnés. On parle pas de ça, là. On parle de 500, là. On parle de 0,5%.
Je savais pas que c'était des proportions complètement différentes. 500 non. Par rapport 500. À 12 000, parce que les excuses à la communauté japonaise m'apparaissaient pertinentes.
Oui.
500 pour les
Italiens. Mais là, on parle de... Non, mais attends, là, 500, puis ça représente 0,5% de la population italo-canadienne de l'époque. Mais mieux que ça, sur les 500, il y en a 100 où c'est clair, net et précis, qu'ils faisaient partie d'organisations fascistes.
Oh, OK.
Et sur ces 500 là, les 500, puis il y en avait 3500 italo-canadiens qui étaient liés à des groupes fascistes au Canada.
Okay.
Et sur les 500, on dit que la GRC à l'époque avait des données, tu sais, pour faire des liens entre ces personnes.
Il y en a arrêté 500, mais il y en avait 3500 qui étaient clairement liés.
Qui était lié. Puis là, on se dit, on devrait mettre les choses en contexte. Et là, l'historien était Luigi Brutti Liberati, donc qui est, lui aussi de descendance italienne, dit non, on fait erreur là. Puis en faisant ça, en présentant des excuses qu'on présentera pas au Québec pour le même nombre de personnes emprisonnées, soit dit en passant, là, autour de 500, on ignore les Italo-Canadiens qui eux sont allés se battre contre les fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils nomment des cas, là, Monsieur Bartolotta, Monsieur Misericordia, qui sont allés travaillaient au Château Laurier, puis qui ont traversé l'Atlantique pour aller combattre les fascistes et les nazis. Alors ça, là, encore une fois,
courte vue partisane.
Ouais, puis je sais pas s'il va se déguiser pour présenter ses excuses, mais au Québec, on peut bien rêver, on n'aura jamais.
On est dans les clichés incroyables. C'est pas possible d'être aussi grossier pour aller chercher du vote libéral ici, là, du vote à la communauté italienne. C'est pas possible.
Merci de le dire.
Merci, monsieur. Bonne journée, à demain. Au revoir.
Ciao.